Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la métamorphose silencieuse de la sécurité sociale ? Pourquoi a-t-on mis en route son désengagement progressif de la couverture de ce qu'on appelle le petit risque en matière de santé ? Quels sont les enjeux de la politique méthodique de privatisation de l'assurance maladie et de réduction de la dépense publique ? S'interroge le juriste Alain Supiot. Quel type de privatisation entend-on privilégier ? Faut-il favoriser plutôt la libre concurrence et le marché de l'assurance ? Ou bien la solidarité et les organismes à but non lucratif ? Nous voici presque au terme de la série de cours consacrée aux figures de l'allégeance qu'Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, a mis en évidence en utilisant le regard juridique comme une manière privilégiée pour observer les mutations politiques, sociales et économiques de notre monde. Membre depuis 2017 de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, le juriste analyse depuis le cours précédent les enjeux de la nouvelle économie du contrat de travail et la montée en puissance de droits attachés à la personne du salarié. Il y interroge la nature des nouveaux liens d'allégeance qui se tissent dans la sphère économique, tandis que s'affirme la liquidation du principe de solidarité et l'évacuation du principe de démocratie économique et sociale dans le contexte néo-sinon ultralibéral. Au travers d'exemples précis, nous allons découvrir, entre autres ce matin, comment le passage d'une conception de droits sociaux à des droits patrimoniaux peut faciliter la mobilité des travailleurs qui, n'étant plus solidaires d'un groupe déterminé, peuvent d'autant plus librement circuler d'un milieu à un autre et emporter avec eux les droits qu'ils ont individuellement acquis. Mais cette éviction du principe de solidarité a, en revanche, pour effet d'accroître les inégalités entre salariés et de donner libre cours à ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui consiste à donner toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et moins à ceux qui ont peu. Alors comment le lien établi en 1945 entre la base conventionnelle de la protection sociale complémentaire, son caractère non lucratif et sa gestion démocratique a-t-il été rompu ? Nous retrouvons tout de suite Alain Supiot sur l'essor des droits attachés à la personne et la métamorphose de la sécurité sociale. Le cours que vous allez entendre ce matin a été exceptionnellement enregistré au studio 108 à la Maison de la Radio.
Lors du dernier cours, nous avions entamé l'étude de l'encadrement jurisprudentiel des objectifs assignés aux salariés. Il nous restait à évoquer aujourd'hui la force juridique reconnue à ces objectifs. Cette force juridique est limitée dans la mesure où le contrat de travail fait peser sur le salarié une obligation de moyens et non de résultats. Mais cela ne veut pas dire que la fixation d'objectifs soit sans effet sur l'exécution du contrat. Certes, leur non-réalisation ne constitue pas en elle-même un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement du salarié. Et d'une façon générale, la Cour de cassation estime que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Toutefois, en l'absence de toute faute du salarié, l'employeur pourra démontrer que le défaut de réalisation des objectifs a résulté d'une insuffisance professionnelle qui, elle, est de nature à justifier un licenciement. La non-réalisation des objectifs pourra aussi justifier une baisse de rémunération lorsque cette baisse est prévue par le contrat, c'est-à-dire lorsque le contrat stipulait que tout ou partie du salaire serait indexé sur les résultats obtenus. Admise en droit civil, une telle clause de variation l'est aussi en droit du travail, sous réserve que le montant du salaire soit déterminable et ne descende pas en dessous des minima légaux ou conventionnels. Quand on sait que le montant du salaire constitue le noyau dur des obligations patronales, celui auquel il ne peut toucher, même pour de bonnes raisons disciplinaires, on mesure ici l'impact de la direction par objectif sur l'économie de ce contrat. La baisse de la rémunération pourra aussi résulter de la révision unilatérale par l'employeur des objectifs assignés aux salariés. La Cour de cassation lui en reconnaît le droit dès lors que, je cite, « le contrat de travail stipulait que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur ». Fin de citation. Cette jurisprudence étend au droit du travail la possibilité d'insérer des clauses potestatives dans les contrats. Est ainsi mise en échec la règle selon laquelle aucune réduction du salaire ne pourrait être imposée au salarié sans son accord, règle où certains auteurs voyaient la manifestation par excellence de la restauration de la force obligatoire du contrat individuel. Par conséquent, l'insertion d'une telle clause dans le contrat de travail permet à l'employeur de baisser la rémunération sans avoir à renégocier le contrat et sans avoir à se placer sur le terrain disciplinaire où une telle réduction serait constitutive d'une sanction prohibée. Alors, que retenir de cet exposé un peu technique des manifestations juridiques de l'impératif de mobilisation des salariés ? Il montre d'abord à quel point est trompeuse la terminologie imposée par la Cour de cassation selon laquelle, je cite, « la vie personnelle du salarié échapperait au pouvoir de direction de l'employeur ». Ce qui lui échappe, ce sont les choix de vie privée dans lesquels ce pouvoir prétendait jadis s'ingérer, ses mœurs, son statut familial, sa religion ou sa façon de se vêtir. Mais en revanche, l'emprise sur la personne du salarié est considérablement renforcée par des modes de gestion qui déstabilisent les cadres spatiaux et temporels d'exécution du contrat et qui entendent programmer le travailleur et non plus le commander. Le propre du travail salarié a toujours été de faire de la personne et non pas seulement d'une entité abstraite appelée force de travail l'objet et pas seulement le sujet d'une obligation contractuelle. Réciproquement, sa prestation de travail et le statut salarial qui lui est attaché participe de l'identité professionnelle du travailleur, c'est-à-dire de sa reconnaissance en tant que personne. La déstabilisation des cadres spatio-temporels d'exécution du travail et l'autonomie programmée inhérente à la direction par objectif conduisent non pas à une réduction, mais à un accroissement de l'engagement de la personne du salarié au service de son employeur. Les notions d'intensité, de stress au travail, de pénibilité, de risques psychosociaux qui ont fleuri dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail sont autant de témoins de cette emprise croissante qui ne s'exerce plus seulement de l'extérieur du salarié sous la forme d'ordre à exécuter, mais de l'intérieur par l'internalisation et l'incorporation de contraintes et de risques qui étaient dans le modèle fordiste du ressort exclusif de l'employeur. L'un des signes de ce glissement est l'augmentation considérable des troubles psychiques dans les pathologies professionnelles. Alors que nous sommes dans une situation de stabilisation relative du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, il y a eu ces dernières années une multiplication par 4 ou 5 de ce type de troubles. Les limites que le droit pose à cette emprise dessinent toute la figure d'un travailleur libre et rationnel. Il ne peut se voir imposer de contraintes ou de contrôles dont il n'ait été préalablement informé et le droit lui est reconnu de contester ce qui n'apparaîtrait pas justifié ou proportionné à la tâche à accomplir. Il est dans la situation d'un homme libre qui, ayant fait allégeance à autrui, doit mobiliser le meilleur de lui-même au service de ce dernier. De son côté, l'employeur, s'il n'a plus le droit de se mêler de la vie privée de son salarié, a le devoir de s'en soucier lorsqu'il entend, par exemple, lui imposer des contraintes nouvelles, difficilement compatibles avec sa vie familiale. S'il peut légitimement lui assigner des objectifs, c'est à la condition de lui donner la formation et les moyens matériels nécessaires pour les atteindre, et s'il conserve le droit de le congédier pour des raisons économiques, c'est à la condition d'avoir tout fait pour le garder à son service, serait-ce en modifiant ses conditions de travail, voire en réduisant son salaire. Ce qui nous amène à la deuxième section consacrée à cette autonomisation des salariés et à l'essor de droits attachés à la personne. On pourrait dire qu'à la fiction du travail marchandise qui a caractérisé l'ère industrielle, la nouvelle économie du contrat de travail substitue progressivement la fiction du travailleur libre. Le prix à payer pour soutenir cette fiction consiste à doter ce travailleur de droits nouveaux censés lui permettre de faire face à ses responsabilités et qui l'accompagneront dans son parcours professionnel. Car cette émancipation relative, conformément à la signification juridique originelle du mot « émancipation », est lourde de danger pour l'émancipé qui se trouve privé des protections attachées à sa domestication antérieure. Je m'autorise ici un petit flash historique pour vous indiquer quelle est cette origine juridique de cette notion si populaire d'émancipation. C'est une notion qui nous vient du droit romain, où elle est apparue d'abord comme une sanction infligée à un fils que son père privait de sa protection et privait aussi de la succession, alors que ce pater familias allait acquérir en revanche le plus souvent sur ce fils les prérogatives d'un patron sur son affranchi. C'était donc l'émancipation une sanction. Une sanction moins grave que la mort ou la vente à l'étranger, mais plus punitive que la simple exhérédation. Car l'émancipation ne rédait pas l'enfant sui iuris, c'est-à-dire maître de lui-même, elle ne le rendait sui iuris qu'en le faisant mourir pour son ancienne famille et en lui faisant subir une série de capitititis de minutiones, je ne parle pas latin assez souvent, de réduction de droits. Ce rappel historique est très éclairant pour comprendre l'ambivalence du statut du travailleur post-fordiste. Il échappe, certes, à la férule taylorienne. Son travail n'est plus décomposé en une succession de gestes contraints et il acquiert une certaine autonomie dans la manière de s'en acquitter. Mais cette autonomie est une autonomie dans la subordination, ce qui implique, comme nous venons de le voir, moins de sécurité contractuelle et davantage de responsabilité. Aussi, le législateur s'est-il soucié de le doter d'une sorte de viatique pour l'aider à faire face à cette insécurité et à ses responsabilités. À l'exigence de mobilisation permanente qui pèse désormais sur lui, correspond la personnalisation de certains de ses droits qui lui demeurent attachés et sont opposables à tout employeur. Depuis le début des années 2000, on a assisté à la montée en puissance de ces droits attachés à la personne du salarié. Mais ces droits nouveaux visent moins à accroître les libertés concrètes des travailleurs qu'à promouvoir leur adaptabilité aux attentes du marché du travail et à compenser la moindre protection qui leur est accordée en termes d'emploi et de protection sociale. À ces droits nouveaux correspondent autant de nouveaux devoirs pour l'employeur. Le contrat de travail n'oblige plus seulement ce dernier à payer une somme d'argent, mais aussi à se soucier, nous l'avons vu à propos des accords de mobilité, de la compatibilité du travail avec une vie sociale et familiale normale, et surtout à veiller au maintien des capacités professionnelles des salariés. Cette dernière obligation ne concerne pas seulement le maintien de ses capacités physiques, mais aussi de ses capacités mentales et de sa qualification professionnelle. Le devoir de prendre soin de la personne du travailleur, et non plus seulement de son intégrité physique, avait été progressivement évacué de la relation de travail avec le recul du paternalisme et le transfert sur la sécurité sociale de la charge du temps long de la vie du salarié. Il y fait aujourd'hui retour, mais sous des formes nouvelles. À grands traits, on peut distinguer parmi ces obligations nouvelles de l'employeur celles dont il doit s'acquitter personnellement et celles dont il peut se décharger moyennant finances sur un organisme extérieur à l'entreprise. L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de la première catégorie. Elle a été inventée en 1992 par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Expovit et ensuite consacrée par le législateur et figure désormais à l'article L6321-1 du Code du travail. Cet article, qui combine une obligation de résultat. Cette obligation de résultat, c'est d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Une obligation de moyens, c'est de veiller au maintien de la capacité professionnelle. Et une simple obligation morale, c'est de développer ses compétences. Retenez ici surtout la seconde de ces obligations, l'obligation de veiller au maintien de la capacité, c'est-à-dire une obligation de vigilance. Nous verrons en effet que cette obligation de vigilance est caractéristique de tous les nouveaux liens d'allégeance. La seconde catégorie d'obligations nouvelles est celle sur laquelle nous allons nous arrêter un peu plus longuement. Elle recouvre celle dont l'employeur s'acquitte en contribuant au financement de garanties collectives dont la mise en œuvre relève d'un tiers à la relation de travail. Ces garanties relèvent du domaine de la prévoyance, dont je dois vous retracer brièvement l'histoire pour être en mesure de démêler ce qu'il y a de réellement neuf dans les dernières réformes visant à en étendre le périmètre. Donc, à nouveau, un petit flashback historique. De l'anéantissement des corporations jusqu'à la création de la sécurité sociale, ce domaine de la prévoyance était livré à l'initiative privée. Initiative des salariés eux-mêmes, qui accumulaient une épargne de précaution, ou initiative d'employeurs, considérant qu'un patron digne de ce nom a une dette morale à l'égard de ses travailleurs âgés, accidentés, chargés de famille ou malades. Ces initiatives individuelles ont pris une dimension collective lorsque ces patrons ont eu recours à des compagnies d'assurance pour opérer entre eux une péréquation de ces charges. Quant aux salariés, ils eurent recours aux sociétés de secours mutuels qui héritèrent des fonctions sociales assurées sous l'Ancien Régime par les confréries de métiers. Légalisées d'abord en 1852, les mutuelles sont des organismes sans but lucratif, gérés par des représentants de leurs adhérents. Coexistaient donc deux types de prévoyance collective, procédant toutes deux d'initiatives privées, mais relevant l'une du marché de l'assurance et l'autre de solidarité professionnelle. La création de la sécurité sociale en 1945 est à certains égards l'héritière de cette tradition. À la différence en effet du modèle britannique, la sécurité sociale n'a pas pris en France la forme d'un service public administré par l'État, mais celle d'un mixte de droit privé et de droit public. L'originalité du plan français résidait dans le principe de démocratie sociale, qui conduisait à confier aux représentants des intéressés la gestion d'un système destiné à couvrir toute la population. C'est une différence qu'il faut toujours souligner, l'étatisme en matière de protection sociale et le fait de la tradition anglaise et non pas de la tradition française. Mais cette instauration de la sécurité sociale n'en opéra pas moins une rupture qualitative avec la prévoyance collective. En effet, la sécurité sociale repose sur ce que le code, l'article premier même du code de la sécurité sociale, appelle la solidarité nationale. Elle est obligatoire et non plus volontaire, et les droits qu'elle fait naître sont attachés aux personnes et les accompagnent du berceau à la tombe, pour reprendre une expression de Beveridge. La sécurité sociale est ainsi devenue un tiers obligé de tout contrat de travail, dotant le salarié de droits personnels, qui furent les premiers à sécuriser ce qu'on appelle aujourd'hui les parcours professionnels dans la terminologie actuelle. Ces droits étant nécessairement limités, la création de la sécurité sociale ne fit pas disparaître le besoin de ce qu'on a appelé à partir de cette date la protection sociale complémentaire. Le législateur a donc permis aux partenaires sociaux de créer, par voie de convention collective, des institutions paritaires à but non lucratif, assurant la péréquation entre cotisants de la charge des prestations qu'elles versaient aux salariés ou à leurs ayants droit. Ces institutions, bientôt dénommées L4, du nom de l'article du Code de la sécurité sociale qui les régissait, intervenaient à côté des mutuelles. En revanche, les assurances à but lucratif furent exclues à l'époque de la prévoyance complémentaire. Celle-ci, pensait-on alors, devait reposer exclusivement sur les principes de solidarité volontaire et de démocratie sociale. Ces bases normatives sont celles sur lesquelles a été édifié en 1947, le système des caisses de retraite complémentaires et en 1958, le régime de l'assurance chômage, qui est lui aussi fondé sur une convention collective et géré paritairement. Mais ces différents régimes étant devenues obligatoires, se sont rapprochées de la sécurité sociale et ils lui sont même assimilés du point de vue du droit européen. Même s'ils ont conservé à ce jour une certaine autonomie de gestion, du reste menacée par la tentation d'étatisation de ces institutions. En revanche, la solidarité volontaire est demeurée de règle pour la couverture des autres risques pris en charge par la prévoyance complémentaire. À compter des années 80, le tournant néolibéral et la pression du droit européen se sont conjugués pour réintégrer l'assurance privée dans le champ de la protection sociale complémentaire et pour soumettre progressivement aux mêmes règles tous les opérateurs intervenant sur ce marché gigantesque et prometteur. Pas moins de 8 lois et ordonnances ont été ainsi adoptées entre 1985 et 2003. La plus importante fut la loi Evin du 31 décembre 1989, dont l'objectif premier était de transposer au secteur de la prévoyance collective les directives européennes relatives à la libre prestation de services en matière d'assurance des personnes. Au nom, je cite, du « renforcement des garanties offertes aux personnes assurées », c'était l'intitulé de la loi, un provisionnement obligatoire de leurs engagements fut imposé aux institutions paritaires et aux mutuelles. Le principe de répartition fut ainsi condamné dans le but de fluidifier ce marché et de faire jouer la concurrence entre les trois types d'opérateurs qui se le disputent désormais, les institutions paritaires, les L4, les compagnies d'assurance et les mutuelles. Le lien établi en 1945 entre la base conventionnelle de la protection sociale complémentaire, son caractère non lucratif et sa gestion démocratique a été ainsi rompu. En contrepartie, les assureurs admis sur le marché ont été soumis à certaines règles inspirées du principe de solidarité, garantie viagère, uniformité des tarifs, interdiction des surprimes individuelles. Et un avantage fiscal a été consenti aux contrats dits « responsables », prévoyant un parcours de soins et ne comportant aucune sélection médicale. Cet avantage fiscal a du reste été progressivement réduit. Dans l'état présent du droit positif, la prévoyance collective se présente sous la forme de ce que la loi appelle des « garanties sociales » ou des « garanties collectives des salariés », financées par l'entreprise et bénéficiant d'un régime fiscal et social favorable. Ces garanties sont en principe instituées par voie de convention ou accord collectif. Elles ont eu pour objet premier de couvrir des risques ignorés ou incomplètement pris en charge par la sécurité sociale, risques dont on trouve une liste non exhaustive à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale. Relève donc du domaine des garanties collectives les retraites complémentaires et supplémentaires, l'assurance chômage et les complémentaires santé, auxquelles il convient d'ajouter des institutions assurant le financement des droits à formation professionnelle. Depuis 1994, la loi impose la séparation de trois types de garanties qui doivent être gérées par des institutions distinctes. Les retraites complémentaires obligatoires, la garantie des risques liés à la vie humaine et les garanties de retraite supplémentaires. Relève également du domaine des garanties sociales le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Et l'ensemble forme un univers juridique en soi, trop négligé à quelques remarquables exceptions près par la recherche universitaire, en dépit ou peut-être à cause de sa redoutable complexité et de son manque de cohérence. Situé à l'articulation du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit de l'assurance, les garanties sociales ont deux caractères communs qu'il est important de saisir du point de vue qui nous importe ici, celui de la place qu'elles occupent dans le statut salarial. Ces garanties collectives ont d'abord pour trait commun d'externaliser la gestion financière des garanties apportées auprès d'organismes spécialisés qui perçoivent des cotisations des entreprises et versent des prestations aux salariés. Ces derniers sont ainsi titulaires d'une créance sur ces organismes, créance distincte de la créance salariale, bien qu'elle prenne sa source dans le contrat de travail. À l'instar du droit de la sécurité sociale, l'intervention d'un tiers débiteur des prestations permet de concilier le temps limité de l'échange contractuel avec le temps long de la vie du travailleur, sans maintenir ce dernier dans un lien de dépendance paternaliste avec son employeur. L'autre caractéristique commune à ces garanties est d'opérer une péréquation de la charge de leur financement entre les cotisants. Mais la façon dont cette péréquation est organisée est le lieu d'une tension permanente entre deux conceptions. La première, qui y voit d'abord un marché qu'il faut ouvrir à la concurrence entre prestataires de services, et la seconde qui voit d'abord l'expression de solidarité professionnelle dont il faut encourager l'exercice. Dans une perspective de libre concurrence, la péréquation repose exclusivement sur des techniques actuarielles d'agrégation statistique des risques, c'est-à-dire sur un pur calcul de probabilité. Relevant de la gouvernance par les nombres, elle ignore les liens entre les personnes pour réduire ces dernières à des facteurs de risque. Au contraire, dans une perspective de solidarité, la péréquation des risques a pour fonction non seulement de doter chacun de certaines garanties face à ces risques, mais aussi de compenser les inégalités de fortune et d'exposition à ces risques. Autrement dit, elle tient compte du principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ce principe ressort clairement du reste encore de la définition légale des mutuelles que vous trouverez dans le premier article du Code de la mutualité et selon lequel les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui mènent une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Au sein d'une mutuelle professionnelle, le montant des cotisations dépendra ainsi du montant des revenus et non pas du degré d'exposition au risque, en sorte que les mieux rémunérés ou les mieux portants acceptent de payer pour les moins rémunérés et les mal portants. Le professeur au Collège de France va payer beaucoup plus que l'instituteur pour des garanties équivalentes, mais il le fait de bon cœur. L'idée de secours mutuel implique ce type d'échange qui est fondé sur l'entraide et non sur un calcul d'utilité individuelle. Et seul ce type de péréquation fondée sur l'entraide au sein d'une communauté de personnes constitue véritablement une mutualisation des risques au sens originel juridique de la notion de mutuus sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre mais auquel j'ai consacré un article publié au Dalloz auquel vous pouvez vous reporter. Comme nous l'avons déjà noté, certaines garanties comme l'assurance chômage ou les retraites complémentaires sont assimilées au droit de la sécurité sociale du point de vue du droit européen. Tandis que d'autres, comme les retraites complémentaires ou les complémentaires santé, dérivent irrésistiblement vers le droit de l'assurance. Retracer à grands traits ce contexte juridique était nécessaire pour comprendre la signification des réformes les plus récentes du statut salarial. Elles sont placées sous la bannière de la flexicurité ou de la sécurisation des parcours professionnels. Et elles cherchent en effet à lier flexibilité et sécurité des salariés. Émancipés des contraintes tayloriennes, davantage livrés à lui-même, le travailleur est exposé plus directement aux contraintes du marché auxquelles il doit pouvoir s'adapter pour faire face à ces risques nouveaux, pour qu'il soit à tout moment et en tout lieu mobilisable et réactif. On le dote de garanties qui tentent à se détacher de l'appartenance à une profession ou à une entreprise déterminée pour s'attacher à sa seule personne et l'accompagner tout au long de sa vie. L'adaptabilité au marché et l'attribution de nouveaux droits attachés à la personne sont donc les deux faces d'une même médaille qui se donne à voir, par exemple, dans le dispositif de sécurisation de l'emploi introduit par l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013. Le côté face de cette médaille, nous l'avons déjà évoqué dans la section précédente, ce sont essentiellement les accords de mobilité, les accords de maintien dans l'emploi qui visent à réduire la force obligatoire du contrat de travail individuel pour répondre aux exigences de mobilité ou à des difficultés économiques conjoncturelles. Le côté pile, ce sont les nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours, c'est la terminologie de la loi, qui font l'objet de la première section de cette loi. Cet intitulé sonne comme un coup de cymbale, mais l'article premier qui le suit immédiatement ne crée pas à proprement parler de nouveaux droits, il étend une couverture déjà existante et il l'étend selon une méthode procédurale en instituant une obligation négociée. La dénomination de droit nouveau peut surprendre s'agissant de la couverture maladie, maternité et accident. Ne fait-elle pas l'objet déjà d'une couverture obligatoire par la sécurité sociale? Et l'urgence n'aurait-elle pas été de créer des droits réellement nouveaux qui soient de nature à donner aux salariés les moyens d'assumer une réelle émancipation vis-à-vis de leurs conditions subordonnées? La loi prétendant sécuriser les parcours professionnels, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle développe des droits qui auraient donné aux salariés plus de liberté dans la conduite de leur vie professionnelle et auraient été réellement nouveaux. À tout le moins, elle aurait pu généraliser l'accès aux prestations de la prévoyance collective qui ne sont pas ou peu pris en charge par la sécurité sociale. Comment comprendre cet abus de langage qui consiste à dire nouveau l'un des droits les plus anciennement reconnus aux salariés, le droit à l'assurance maladie? Alors la réponse à cette question ne se trouve pas du côté du droit du travail, mais de celui de la sécurité sociale et plus précisément de son désengagement progressif de la couverture de ce qu'on appelle le petit risque en matière de santé. L'assurance maladie a fait depuis 20 ans l'objet de ce que Didier Tabuteau, l'un de ses meilleurs spécialistes, dont je reprends ici le diagnostic, appelle une métamorphose silencieuse. Le taux moyen de remboursement des dépenses de santé, qui avait atteint 80% au début des années 80, n'a cessé de baisser depuis lors et s'élevait à 75,5% en 2011. Mais ce montant, encore très honorable, masque des disparités considérables entre deux types de dépenses. D'une part, les dépenses d'hospitalisation et de traitement des maladies graves, ce qu'on appelle les affections de longue durée, les ALD, qui représentent ensemble 80% du total des dépenses du régime général et sont respectivement prises en charge à 90 et 100%. Et d'autre part, les soins courants, ceux qui concernent les trois quarts de la population et dont le taux moyen de remboursement excède à peine plus de 50%. Dans les années 90, les sociétés d'assurance avaient essayé d'obtenir une ouverture totale de l'assurance maladie à la concurrence. Cette attaque frontale avait soulevé un tollé et s'était soldée par un échec. Mais elle n'est pas restée sans lendemain. Lui a succédé ce que Didier Tabuteau appelle une politique du salami et qu'il décrit de la façon suivante. Donc je cite Didier Tabuteau. La politique du salami consistant à découper en fines tranches l'assurance maladie obligatoire pour permettre son absorption progressive et tolérée par les organismes de protection complémentaire, elle a été infiniment plus efficace que les annonces provocantes d'offres publiques d'achat sur les caisses d'assurance maladie de la fin des années 90. Conduite avec cohérence et détermination de 2004 à 2014, elle a patiemment façonné le cadre juridique et économique permettant de substituer discrètement les assurances complémentaires à la sécurité sociale. Fin de citation. En effet, dans un contexte de réduction drastique des dépenses publiques, cette privatisation en douceur des segments les plus rentables du marché gigantesque que représente le secteur de la santé apparaît aujourd'hui irréversible. Le montant des dépenses courantes de santé représentait en 2012 243 milliards d'euros, soit 12% du produit intérieur brut. Or, il suffit qu'un service soit privatisé pour que, de charge publique, il se métamorphose miraculeusement en facteur de croissance économique dans les comptes de la nation. C'est le cas du marché des complémentaires santé qui représentait 31 milliards d'euros en 2011 et dont le volume augmente mécaniquement à chaque diminution de la prise en charge par la sécurité sociale. On comprend mieux dans cette perspective la priorité donnée à la couverture complémentaire santé dans la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Il ne s'agit nullement de donner aux salariés des droits véritablement nouveaux qui les armeraient face aux risques accrus qu'ils courent sur le marché du travail, mais bien plutôt de pallier à la dégradation des prises en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale, tout en poursuivant une politique méthodique de privatisation de l'assurance maladie et de réduction de la dépense publique.
Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, l'essor des droits attachés à la personne et la métamorphose de la sécurité sociale.
Si l'on prend acte de cette évolution, la question qui se pose et de savoir quel type de privatisation on entend privilégier. Faut-il favoriser plutôt la libre concurrence et le marché de l'assurance, ou bien la solidarité et les organismes à but non lucratif? La généralisation de la complémentaire santé a fourni au lobby des assurances l'occasion de rouvrir cette question, qui n'a cessé de se poser depuis 1945. La réponse à lui donner a divisé non seulement la représentation parlementaire, mais aussi le monde patronal. La Fédération française des sociétés d'assurance, évidemment favorable à la libéralisation du marché, s'est opposée par exemple sur ce point à l'Union professionnelle artisanale qui est favorable à une gestion paritaire. La loi de sécurisation de l'emploi avait donné plutôt satisfaction aux partisans du maintien du principe de solidarité dans le domaine des complémentaires santé. L'un des objectifs affichés par cette loi est de permettre aux partenaires sociaux de mettre en œuvre ce que la loi appelle un degré élevé de solidarité dans les conventions prises pour son application. Cette notion de degré élevé de solidarité, qui figure donc à l'article L912.1 du Code de la Sécurité sociale, n'a pas été introduite dans la loi par hasard. Elle se réfère de façon transparente à la définition qu'en a donnée la Cour de justice européenne dans un arrêt AG2R prévoyance du 3 mars 2011. Cet arrêt avait jugé de la compatibilité d'un régime mis en place par un accord professionnel, d'un régime de protection sociale, avec le principe de libre concurrence en matière d'assurance. Et la Cour de justice a estimé que l'instauration d'un tel régime n'était pas incompatible avec la libre concurrence, dès lors que ce régime organisait un degré élevé de solidarité. Et c'est en faisant application de cette idée de degré élevé de solidarité que la loi maintenait le droit des partenaires sociaux de désigner un organisme unique pour toutes les entreprises d'une branche professionnelle donnée. C'est ce qu'on appelle les clauses de désignation. Et d'obliger les entreprises déjà assurées ailleurs à migrer vers l'organisme ainsi désigné. L'idée de ce degré élevé, c'est que si on prend le secteur de la boulangerie, certaines boulangeries peuvent avoir des salariés âgés qui vont être plus fréquemment malades, eh bien on va opérer au niveau de la branche une péréquation en confiant la protection complémentaire à un opérateur unique. Cette possibilité d'introduire de telles clauses de désignation avait d'abord été reconnue par la Cour de cassation, puis consacrée en 1994 par le législateur dans l'article L912.1 du Code de la Sécurité sociale. Et la Cour de justice a donc jugé ces clauses de désignation et de migration conformes au droit européen, dès lors que lesdites clauses visent à mettre en œuvre un degré élevé de solidarité. Dans la mesure où elles mettent en œuvre le principe de solidarité, de telles clauses ne sont donc constitutives en droit européen ni d'une entente prohibée, ni d'un abus de position dominante, ni d'une infraction aux règles régissant les entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général. Pour prévenir les critiques des partisans d'une totale libéralisation du marché de la prévoyance, la loi sur la sécurisation de l'emploi avait entouré le recours à ces clauses de désignation et de migration d'un certain nombre de précautions nouvelles destinées à faire jouer la concurrence entre opérateurs. Le législateur pouvait ainsi légitimement penser avoir trouvé un équilibre entre les bienfaits de la concurrence, puisque au niveau d'une branche professionnelle, on devrait faire un appel pour mettre en concurrence les compagnies qui auraient ensuite à couvrir la totalité des entreprises de la branche, donc les bienfaits de la concurrence d'une part, et l'instauration d'une solidarité entre les entreprises appartenant à une même branche d'autre part. En dépit de ces garanties, la possibilité de convenir au niveau des branches de clauses de désignation ou de migration a été vivement combattue par les sociétés d'assurance, dont les efforts ont été efficacement relayés par l'autorité de la concurrence et par un certain nombre de parlementaires qui ont déféré cette disposition devant le Conseil constitutionnel. Et à la surprise générale des spécialistes du droit social, au lieu d'adopter la même jurisprudence que la Cour de justice de l'Union, qui n'est pas en général très favorable au principe de solidarité, le Conseil constitutionnel a saisi cette occasion pour déclarer inconstitutionnel toutes les dispositions qui, depuis 1994, légalisaient ce type de clause. C'est la décision numéro 2013-672-DC du 13 décembre 2013. Elle répond pleinement à l'appel lancé il y a quelques années par l'un des représentants des entreprises d'assurance, M. Denis Kessler, à, je cite M. Kessler, « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance ». Fin de citation. Cet arrêt, en effet, dynamite la base légale d'une mutualisation des risques au niveau des branches professionnelles, et tend à évincer ainsi le principe de solidarité du domaine de l'assurance maladie complémentaire. C'est l'un des griefs qui lui a du reste été aussitôt adressé par l'Union professionnelle artisanale, car je le rappelle, en ce domaine, les petites entreprises ne souhaitent pas être confrontées à devoir choisir chacune leur assureur et étaient attachées à cette idée de solidarité de branche. Nous l'avons vu, au lendemain de la guerre, les fondateurs de notre système de protection sociale, au premier rang desquels Pierre Laroque, avait eu pleinement conscience du besoin de compléter la sécurité sociale par des dispositifs de pur droit privé. Et ils avaient institué à cette fin des mécanismes de solidarité civile sans but lucratif et gérés démocratiquement. C'est cet héritage que le Conseil constitutionnel a rayé d'un trait de plume pour consacrer la solution exactement contraire et métamorphoser l'assurance maladie complémentaire en marché lucratif pour les opérateurs financiers. Cette solution de la décision du 13 juin 2013 a été confirmée depuis par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 décembre 2016. Et ce qu'on peut noter, c'est que siégeait dans la décision confirmant donc la condamnation des clauses de désignation par le Conseil constitutionnel, un des membres de ce Conseil qui est un ancien directeur des affaires juridiques d'AXA. Et AXA est une compagnie d'assurance qui avait publiquement critiqué les dispositions sur les clauses de désignation. Donc peut-être y aurait-il aussi des progrès à faire au Conseil constitutionnel pour éviter ce type de conflit d'intérêts. Mais on sait qu'à la différence de la Cour constitutionnelle allemande, le Bundesverfassungsgericht, le Conseil constitutionnel français est par sa composition une instance autant politique que juridictionnelle. Et en l'espèce, sa décision, qui a aussi été fortement critiquée par la doctrine, relève à l'évidence d'un choix politique plutôt que d'un raisonnement juridique. Un tel raisonnement aurait consisté à confronter d'une part les libertés économiques, liberté d'entreprendre et liberté contractuelle, et d'autre part les deux principes suivants qui découlent du caractère social de la République, puisque l'article 1er de notre Constitution dit que notre République est une République sociale. En premier lieu, le principe de solidarité. Il suffit de comparer sa motivation, la motivation de la décision du Conseil constitutionnel français, à celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est pourtant peu suspecte d'hostilité à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, pour que cette liquidation de la solidarité saute aux yeux. Là où la Cour de justice s'est longuement efforcée de définir le principe de solidarité afin de le concilier avec la liberté économique, le Conseil constitutionnel l'exclut de son vocabulaire pour mieux le vider de toute portée normative. On cherche vainement le mot « solidarité » dans une décision relative à une loi qui, conformément au principe de la République sociale, entendait permettre aux partenaires sociaux de mettre en œuvre un haut degré de solidarité. Ce haut degré désigne la possibilité d'édifier un régime de protection sociale au niveau d'une branche, c'est-à-dire un pot commun à toutes les entreprises et salariés de cette branche. C'est en second lieu le principe de démocratie économique et sociale qui est enterré par le Conseil constitutionnel. C'est lui aussi un principe à valeur constitutionnelle, puisque l'alinéa 8 du préambule de 46 dispose « Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Les garanties collectives de protection sociale font partie de ces conditions de travail et leur gestion au sein d'organismes à but non lucratif gérés par des représentants des salariés assurés était depuis 60 ans l'un des lieux d'exercice de cette démocratie économique et sociale. C'est cette gestion démocratique que le Conseil interdit pour confier aux employeurs le soin de décider qui profitera de la manne des cotisations. L'argument selon lequel on ne pourrait imposer à l'entreprise un contractant qu'elle n'a pas choisi, donc une atteinte à sa liberté contractuelle, voudrait pourtant, a fortiori pour chaque salarié, à qui l'article L912.2 impose un assureur sans que le Conseil y trouve à redire. Donc la liberté contractuelle de certains vaut plus que celle des autres. Il ne fait pas de doute que cet argument sera invoqué par des salariés riches ou en bonne santé pour s'émanciper à leur tour de toute forme de solidarité à l'échelle de l'entreprise et s'assurer à moindre coût sur le marché de la santé. Les compagnies d'assurance n'ont pas manqué d'user déjà de cet argument dans leur campagne publicitaire, puisque j'en ai vu une récemment dont l'argument était le suivant : pourquoi payer comme un malade quand on n'est pas malade ? Pourquoi en effet ? Nous avons affaire ici à un montage de factures néolibérales qui, loin de revenir sur les prélèvements obligatoires, en détourne le produit en direction des marchés. Cette opération a été conduite à grande échelle en matière de retraite dans les nombreux pays qui ont abandonné les régimes par répartition au profit des systèmes de capitalisation. Cette politique de capitalisation a été activement promue par la Banque mondiale. Je vous conseille de revenir sur ce point à son rapport qui date de 1994, qui s'appelait « Averting the Old Ages Crisis » et qui déjà donnait ce mot d'ordre d'utiliser les fonds de pension pour alimenter les marchés boursiers, et on sait que cette consigne a été suivie des faits. Cette conversion de la solidarité collective en épargne obligatoire a été l'un des principaux facteurs du pouvoir acquis par les marchés financiers sur les entreprises et la politique économique des États. Le domaine de la santé représente évidemment un nouvel Eldorado à conquérir, ce qui suppose ici encore de remplacer la solidarité par le marché. Les avatars de la généralisation de l'assurance maladie complémentaire sont riches d'enseignements, dans la mesure où ils ont mis en lumière deux conceptions différentes des droits destinés à sécuriser les parcours professionnels. La conception retenue par le législateur était celle de garanties collectives s'exerçant individuellement. Ces garanties sont collectives non seulement en raison de la nature de l'acte qui les crée, mais aussi en raison de la possibilité reconnue aux signataires de ces conventions de fonder ces droits sur un régime de solidarité géré par des représentants de ceux qu'ils financent. Les droits individuels destinés à protéger le salarié tout au long de la vie professionnelle sont alors fondés sur ces régimes. Ce sont donc des droits sociaux. La conception imposée par le Conseil constitutionnel est au contraire celle de droits purement individuels qui ne procèdent plus d'un régime instituant une solidarité entre les membres d'une même profession, mais prennent la forme d'une créance sur un organisme financier ou un assureur. Autrement dit, il ne s'agit plus à proprement parler de droits sociaux, mais de droits patrimoniaux fondés sur la capitalisation et non sur la solidarité. Cette conception facilite la mobilité des travailleurs qui, n'étant plus solidaires d'un groupe déterminé, peuvent d'autant plus librement circuler d'un milieu à un autre et emporter avec eux les droits qu'ils ont ainsi individuellement acquis. Mais cette éviction du principe de solidarité a en revanche pour effet d'accroître les inégalités entre salariés et de donner libre cours à ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui consiste à donner toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et moins à ceux qui ont peu. L'Évangile, selon saint Matthieu, dit « À ceux qui ont, on donnera, et ils seront dans l'abondance, et à ceux qui n'ont rien, on ôtera même ceux qu'ils ont. » Or, l'expérience acquise pour d'autres garanties sociales montre qu'il est tout à fait possible de concilier mobilité et solidarité, et même que ce dernier principe est indispensable à l'efficacité de ces garanties. C'est ce que montrent les évolutions les plus récentes en matière de formation professionnelle ou d'assurance chômage, mais je vais me cantonner ici, car l'heure tourne, à la formation professionnelle. Concernant la garantie d'un égal accès à la formation professionnelle, il faut commencer par rappeler qu'elle a une valeur constitutionnelle, puisqu'elle est consacrée par l'alinéa 13 du préambule de 1946, au terme duquel la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. La mise en œuvre législative de cette garantie constitutionnelle a été le fait de la loi dite Delors du 16 juillet 1971. Monsieur Delors était alors conseiller social du Premier ministre. Et cette loi avait pour objet d'étendre à toutes les entreprises et à poser les bases du système de formation professionnelle. Or, le choix opéré à cette époque avait précisément consisté à instituer un marché de la formation plutôt que de confier celle-ci à un service public comme l'éducation nationale, ou à un régime de solidarité à but non lucratif. Sur ce marché de la formation se rencontre donc la demande de formation des entreprises et l'offre des dispensateurs de formation. Le système n'est pas financé par des cotisations, mais par des taxes qui représentent une dépense minimale de formation imposée à toutes les entreprises et sur le montant desquelles elles peuvent partiellement imputer les actions de formation qu'elles décident d'organiser pour leur personnel. La collecte et la gestion des fonds étaient assurées par des organismes agréés dont l'architecture a été maintes fois réformée et qui viennent d'être, en 2018, remplacées. C'est l'URSSAF, désormais, qui va prélever ces cotisations. Ce marché de la formation est régulé par la négociation collective de branche et par les services de l'État et des régions. En dépit des nombreuses réformes dont ce système complexe et opaque a fait l'objet depuis 1971, son efficacité a toujours souffert des grandes inégalités qu'il autorise dans l'accès à la formation. Voici le diagnostic établi par le Sénat lors des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2014. Je cite le Sénat. Des discriminations dans l'accès à la formation sont constatées selon la taille de l'entreprise. 65,8% des salariés des entreprises de plus de 250 salariés en bénéficiant chaque année contre 33,3% de celles de moins de 10 salariés. Elle varie aussi selon l'emploi occupé, le taux d'accès annuel des cadres étant de 68,3% contre 36,2% pour les ouvriers. Les femmes bénéficient moins que les hommes de formation qualifiante. Les demandeurs d'emploi sont désavantagés par rapport aux actifs occupés. De plus, le régime actuel n'alloue pas les fonds à ceux dont les besoins sont les plus importants et les moyens les plus limités, c'est-à-dire les plus petites entreprises. Aujourd'hui, dit le Sénat, ce rapport du Sénat, le système est tellement peu redistributif que les PME de 10 à 49 salariés financent à hauteur de 50 millions d'euros par an la politique de formation des entreprises de plus grande taille. Fin de citation du rapport sénatorial. Ce bilan montre la dynamique inégalitaire où engage l'éviction du principe de solidarité. Il est malheureusement prévisible que la décision du Conseil constitutionnel en matière de complémentaire santé aura des effets semblables. C'est pourquoi, en matière de formation professionnelle, la réforme décidée par les partenaires sociaux et légalisée par le Parlement par la loi du 5 mars 2014 a au contraire eu pour objet de fonder sur une solidarité plus grande les droits nouveaux qu'elle reconnaît aux travailleurs. Pour réduire les inégalités entre petites et grandes entreprises, cette réforme de 2014 a accru le financement et le rôle du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dont 20% de la totalité des ressources seront consacrées à une mutualisation interprofessionnelle au profit des salariés des petites entreprises, qui étaient les grands perdants du système antérieur, tout entier fondé sur l'idée de régulation d'un marché de la formation. Et ce reflux de la logique du marché vers celle de la solidarité n'a nullement empêché l'amélioration des droits à la formation attachés à la personne. Bien au contraire, la loi nouvelle a créé un compte personnel de formation ouvert à toute personne ayant terminé sa scolarité et destiné à fonctionner jusqu'à son départ en retraite. À la différence du droit individuel à la formation qu'il remplace, ce compte ne concerne donc pas les seuls salariés en activité. Autre différence importante, son emploi dépend de l'initiative de son titulaire qui n'a pas à obtenir l'accord de son employeur dès lors que les heures de formation qu'il sert à financer sont prises en dehors des heures de travail. Enfin, je cite le code, « les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire ». C'est ce qu'on appelle la portabilité du droit à formation qui, à la manière d'un compte épargne, est un droit de tirage dont on peut user tout au long de sa vie pour faire face à des difficultés ou au contraire pour mener à bien de nouveaux projets professionnels. Il faut cependant noter, puisque nous sommes aujourd'hui en 2018, l'intervention de la loi du 5 septembre 2018, joliment intitulée « Loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel », qui va dans le sens de la monétarisation de ces comptes qui ne sont plus libellés en heures, mais en euros. La terminologie bancaire utilisée fréquemment pour instituer ces droits de tirage sociaux, que ce soit en matière de formation ou dans d'autres domaines, est caractéristique de ces nouveaux droits attachés à la personne. Par exemple, le bilan de compétences, un compte épargne-temps, le compte personnel de formation. Mais il ne faut pas y voir nécessairement la marque d'une véritable capitalisation. Participant de ce que j'ai proposé d'appeler l'état professionnel des personnes, ils sont en principe incessibles et insaisissables et relèvent de la zone grise qui sépare les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Vous ne pourrez pas céder le montant de votre compte de formation pour vous acheter du whisky, par exemple. Et surtout, ils sont pour la plupart d'entre eux adossés à la solidarité des membres d'un groupe professionnel et non à un dépôt en capital. Ces droits donnent une forme moderne à un type de richesse bien connu de nombreuses sociétés traditionnelles, où est considéré comme riche non pas celui qui a amassé un tas d'or, mais celui qui a tissé suffisamment de liens avec autrui pour pouvoir compter sur leur entraide. L'homme est plus riche par ce qu'il a que par ce qu'il a, dit un adage bamileke. Le riche, selon cette culture, c'est celui qui a beaucoup de gens sur lesquels il peut compter. Cela ne dissuade pas de l'effort de prévoyance, mais comme le montre le cas des tontines africaines, qui sont gérées par des femmes le plus souvent, c'est la solidarité de ceux qui sont tour à tour créanciers et débiteurs qui constitue la garantie la plus sûre de l'épargne de chacun. Car en fin de compte, pour citer ici encore les fleurs de la sagesse Pamileke, c'est toujours par la main de l'homme que Dieu porte secours à l'homme. Adosser ainsi la sécurité économique sur des liens de solidarité entre les personnes plutôt que sur la propriété individuelle d'un capital, est en revanche directement contraire à la dogmatique libérale. Celle-ci se représente la société comme une collection de sujets entourés d'objets, et elle fait de la propriété individuelle l'alpha et l'oméga du rapport du sujet à l'objet. Elle a donc énormément de mal à penser l'inscription des sociétés humaines dans leur milieu et est tout à fait incapable de saisir la nature de cet objet étrange qu'est la monnaie, dont le propre est justement de symboliser une croyance commune. Rappelez-vous à ce sujet ce que M. Rowell nous a dit lors de notre séminaire de l'an dernier sur l'assimilation de l'hostie et du sou, cette monnaie qui soude. L'institution de la sécurité sociale avait la première signifié le retour à ce type de droit. J'avais avancé, il y aura bientôt 20 ans, le concept de droits de tirage sociaux pour caractériser l'émergence de droits d'un type nouveau qui sont attachés non à l'emploi mais à la personne du travailleur et qui contribuent à assurer la continuité de l'état professionnel par-delà la discontinuité et l'hétérogénéité des situations de travail. Il s'agissait, avec ce concept, de penser, de systématiser des dispositifs épars, crédit d'heure, compte épargne-temps, congés spéciaux, aide à la création d'entreprises, crédit formation, etc., qui ont pour trait commun de permettre aux salariés de se libérer pendant un certain temps du travail subordonné pour se consacrer à une autre activité socialement utile. Ce sont des droits de tirage, car leur réalisation dépend d'une double condition. La première, c'est la constitution d'une provision suffisante et la décision de leur titulaire d'utiliser cette provision. Et ce sont des droits sociaux, aussi bien dans leur mode de constitution, puisque c'est un abondement diversifié de la provision, dont la constitution peut mobiliser différents cercles de solidarité. Ils sont aussi sociaux dans leurs objectifs, puisqu'on ne pourra exercer ce droit de tirage que moyennant contrôle de l'utilité sociale de l'activité rendue possible par l'exercice de ce droit. Autrement dit, là où la sécurité sociale protège contre des risques de l'existence, des événements dont on n'a pas choisi la survenance, les droits de tirage sociaux ont vocation à permettre une réelle liberté de choix dans la conduite de sa vie professionnelle. Les évolutions les plus récentes du droit positif montre que cette perspective n'est pas totalement absente de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels, notamment en matière de formation et de santé et de sécurité au travail. Même si la tendance lourde est plutôt celle d'un enfoncement dans la réification du travail, assimilé à un capital humain livré sans reste à l'empire du marché total. Ce trop long chapitre avait pour objet de saisir, au cœur même de la relation de travail, la réalité et la signification de la résurgence des liens d'allégeance. La relation de travail a été en effet le noyau des formes modernes de gouvernement des hommes et l'on peut faire l'hypothèse que ces métamorphoses actuelles sont de nature à éclairer de façon plus générale l'évolution de nos systèmes normatifs. C'est à la vérification de cette hypothèse que sera consacré le chapitre conclusif de ce cours.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot, les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, l'essor des droits attachés à la personne et la métamorphose de la sécurité sociale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Alain Supiot a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez le même éditeur en 2015. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, fin des figures de l'allégeance en compagnie d'Alain Supiot. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.